Mais de quoi la nuit est-elle le nom? D'abord l'évidence. La nuit dissimule, cache ce qui ne doit pas être vu, protège des autres, toujours prompt à surprendre nos secrets inavouables, nos rencontres improbables, nos actes interdits. Elle désarme les bras vengeurs, brandit devant les transgressions, qu'elles soient amoureuses, vagabondes, évadées, contrebandières, brigandes ou sanglantes. Que l'on soit en train de perdre la tête au bal musette, d'étreindre cette gourgandine ou ce voyou tant désiré, de racoler au bois de Vincennes, d'ouvrir la septième chambre de Barbe Bleue, elle contrarie les visées des gardes chiourmes qui sommeillent en tant de braves cœurs. Tendre est la nuit, notre complice, tendre est la nuit, notre allié, notre amie, notre bonne fée. Toute cette semaine dans l'heure bleue, désir de nuit. Jeudi, nous serons avec l'écrivaine Marie Darieusec qui ne peut plus dormir. Mercredi, avec le scientifique Trin Xan San qui lui a la chance d'observer les cieux les plus étoilés à travers les observatoires du monde entier. Demain, le philosophe Michael Fossel qui trouve que pendant la nuit, nous sommes plus libres que pendant le jour. Et ce soir, l'historienne Janine Mossus-Laveau pour son anthologie sur la nuit. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et évidemment, ce sera Alain Bachung.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait briller. J'étais gants de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en route. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho.
Après Alain Bashung, Janine Mossus-Lavo, vous avez la lourde tâche d'ouvrir cette semaine sur la nuit, désir de nuit. Vous nous offrez un très beau cadeau de Noël avec cette anthologie sur la nuit, mais la première question sera personnelle. Vous souvenez-vous de votre première nuit ?
Si je remonte assez loin, c'est-à-dire dans l'enfance, je dirais que c'est un soir d'été à la campagne où un soir avec ma mère, on a fait quelques pas hors de la cour de la maison et on était devant un champ d'avoine avec le vent qui soufflait mais très légèrement, le vent du soir, le ciel étoilé et comme c'était en hauteur, on voyait les lumières de toute la vallée. Et c'est vrai que ma mère, qui travaillait énormément, avait très peu de temps pour gérer la contemplation simplement être là en train de voir la beauté du monde. C'est un moment d'intimité, sans parole, mais que j'ai en tête et qui, d'ailleurs, me revient souvent.
Donc c'est une nuit plutôt douce.
Une nuit douce. Une belle nuit, une nuit d'été et une nuit
d'harmonie.
D'amour, mais aussi d'amour, parce que je dirais dans ce milieu à la fois rural, très modeste, comme dans beaucoup de familles, je dirais, mais on ne se disait pas « je t'aime », comme les parents et les enfants se disent aujourd'hui beaucoup plus facilement, mais disons que l'amour passait par des moments, par des gestes, par du non-verbal. C'était ressenti, c'était fluide, ça coulait, et c'était évident.
Et donc la nuit a été, dès l'enfance, votre alliée ?
Elle a été mon alliée, absolument, et je l'ai toujours aimée. Et je dois dire que c'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait ce livre, c'est-à-dire que la nuit est... ce qu'il fallait que je mette dedans, c'est-à-dire, puisque c'est une anthologie, c'est-à-dire les beaux textes sur la nuit dans la littérature, le théâtre, la poésie, depuis l'Antiquité gréco-romaine jusqu'à aujourd'hui. La nuit et la littérature, pour moi, ce sont deux évidences totales qui font intégralement partie de ma vie et qui lui donnent du sel aussi, voilà.
Vous avez toujours apprivoisé la nuit ?
Oui.
Vous n'avez jamais eu peur de la nuit ?
Je n'ai jamais eu peur de la nuit, sauf, je dirais, à un moment précis, mais quasiment presque de terreur, quand j'ai vu Psychose, ce film qui fait très peur, en tout cas moi qui m'avais vraiment glacée. Et j'étais étudiante à l'époque, et quand je rentrais tard le soir, dans les soirs qui ont suivi, je rasais les murs en regardant, parce que j'étais absolument terrifiée. Et c'est vrai que Psychose, d'ailleurs, il y a des scènes que je n'ai jamais vues, parce que j'avais tellement peur que pendant le film, je me mettais les mains devant les yeux. Et donc je n'ai jamais vu, parce qu'on me l'a raconté après, mais j'ai jamais vu la scène où on voit d'horribles choses en haut de l'escalier. Et d'autres scènes aussi du film, et même quand il est repassé à la télévision, que j'ai réussi à le voir en trois fois, parce que je ne supportais pas plus, cette scène, je n'ai jamais pu la regarder.
Alors vous, Janine Mossus-Lavo, vous qui savez très bien, mieux que quiconque, puisque vous êtes historienne, sociologue, que la domestication de la nuit a été une des grandes entreprises de possibilité de la sécurité. Je vous propose d'écouter l'historienne Arlette Farge à propos de la nuit au XVIIIe siècle. Elle va parler de cette vie nocturne. C'est une archive INA du 15 juin 2021. C'est au micro de Céline Duchesnet.
Alors la nuit au XVIIIe siècle, elle est, si on l'entend comme aujourd'hui, vraiment très courte. Elle n'existe vraiment, je crois, qu'entre 3h et 5h du matin. Elle est peuplée absolument d'activités et aussi évidemment de populations qui se mélangent d'ailleurs, qui se côtoient. Vous avez à la fois tous les carrosses qui vont au théâtre ou qui sortent du théâtre et qui emmènent les ducs et les duchesses. Et donc derrière, ça attire évidemment toute la population. Après, vous avez la population qui vient regarder ces carrosses qui partent et qui rentrent. Bon, il y a déjà ça. Mais s'il y avait que ça, ça serait rien. C'est vraiment aussi quand même, il faut le dire, à la fois une vie marginale et un Paris très travailleur. C'est-à-dire, on change absolument, pas d'habitants, bien sûr, parce qu'ils habitent tous Paris, mais de personnages. C'est pas les mêmes personnages le jour que la nuit. Et bien sûr, comme on peut le deviner, il y a les cabarets qui sont ouverts. Et il faut donner une très très grande importance à l'ivresse à cette époque-là, vraiment très très fortement, sans en faire comme on en fait certains historiens qui expliquent la Révolution par l'ivresse, ce qui est quand même un peu compliqué. Mais aussi par des tas d'activités. Les travailleurs sont là, pas tous bien sûr, mais ils sont nombreux, et ils côtoient les voleurs. Ils côtoient les marginaux et notamment des gens qui sont pas vraiment drôles, je peux dire. Il y a par exemple tous ces étudiants en médecine qui se précipitent dans les cimetières pour ouvrir les sépultures et aller chercher des ossements pour après travailler sur eux. Donc
parce que c'était interdit.
C'est interdit, absolument interdit. Et donc, les charniers ouverts, c'est pas... Il y a déjà tellement d'odeurs à Paris que si ça se s'ouvre comme ça, c'est vraiment très difficile. Mais il y a aussi toute une population qui est là pour des tas de raisons. D'abord, il y a des gens qui s'en vont très tard, dans la fin de l'après-midi, pour rentrer chez eux. Ils habitent très loin de Paris, ils marchent à pied, donc très très longuement, ils sont donc présents. Et de même, vers les 5 heures du matin, vous avez toutes les arrivées, alors qui sont très impressionnantes et très bruyantes, à la fois par exemple de Gonesse arrive le pain, donc les chariots, les bœufs qui traînent les chariots, les chevaux, etc. Puis arrivent tous les animaux pour être équarris rue de Roi de Sicile le matin. Donc ça fait des bruits épouvantables. Quand je dis tous les animaux, c'est les moutons, les pintades, les vaches. C'est la vie quotidienne, c'est la vie nocturne. Elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce que elle est peu éclairée. Et d'ailleurs, ceux qui habitent la nuit, qui veulent être dans la nuit pour y faire ou des délits ou des activités plutôt louches, ils vont pas aimer qu'on éclaire les rues. Ils vont même pas aimer qu'on mette des écriteaux dans les rues.
Alors, on entend bien dans les propos d'Arlette Farge, Jeannine Mossus-Laveau, à quel point effectivement la possibilité de l'éclairage public dans les grandes villes a été une sorte de refuge pour les gens, la bourgeoisie notamment, hein, puisque ça s'est fait au moment de l'avènement de la bourgeoisie au milieu du 19e siècle. Est-ce à dire que la nuit a été dangereuse depuis l'aube de l'humanité jusqu'à la domestication de la lumière à l'intérieur de l'espace public?
Elle a été dangereuse, effectivement, parce que elle permet de se cacher, donc de cacher les mauvaises actions qu'on a l'intention de faire, par exemple. Et c'est vrai que, je dirais que les malfrats à l'affût sont rarement des tueurs sensibles, hein, comme disait Raymond Devos. Et cet éclairage, plus évidemment toutes les mesures sécuritaires autour, ont rendu la nuit moins dangereuse, disons, vraiment dans la quotidienneté. Cela étant, elle demeure tout de même, le lieu du crime d'une certaine façon, parce que minuit, l'heure du crime, ce n'est pas qu'un slogan, hein. C'est aussi une réalité qui peut très vite survenir, que ce soit à coup de couteau ou d'autre chose. Donc, il faut bien voir que la nuit, enfin moi, ce que j'ai appelé dans le livre la nuit des mauvais garçons, c'est-à-dire la partie où je montre montre des, enfin disons, je donne des extraits de textes qui racontent quelques-unes des horreurs qui peuvent être perpétrées pendant la nuit, eh bien, c'est quelque chose qui perdure. Hein. Heureusement, il n'y a pas que ça. Parce que la nuit, c'est aussi la fête. Et la nuit, c'est aussi, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est aussi la danse. Et ça, c'est quelque chose qui ne pouvait pas avoir lieu, je dirais, autant dans ces siècles dangereux que ça l'est plus récemment, où on peut danser partout toute la nuit, sauf évidemment dans certains endroits en cas de pandémie et de et,
disons ce que nous avons vécu voilà, pendant longtemps.
C'est, voilà, depuis quelque temps, mais n'empêche que jusqu'à il y a peu, puisque bon, tout ça n'est pas encore terminé malheureusement, c'était quand même un espace de fête et de danse.
Oui, et ce qui est très intéressant, Jeannine Monsieur-Slavaux, c'est qu'effectivement, les obligations de confinement nous faisaient rentrer justement à la lisière de la fin du jour et au début de la nuit, comme si effectivement c'était dangereux de traverser une ville ou un endroit la nuit. Comme si le virus pouvait peut-être circuler plus la nuit. C'était très étrange.
Disons qu'il y avait une raison, je dirais, acceptable, hein, qui est que, justement, comme la nuit, c'est un espace, un moment de fête, effectivement, les soirées dansantes, les dîners à tout plein de personnes, évidemment sans masque, et tout ce qui pouvait être, finalement, ces rassemblements de pas mal de monde, c'était un lieu qui devenait, bon, ce que nous on appelait des petits clusters entre amis, mais enfin, qui pouvaient être aussi des clusters plus conséquents. Donc, c'était assez logique d'arrêter, au fond, la circulation et disons la jouissance de l'espace public autant qu'on veut, à la nuit. Du point de vue des autorités, je pense qu'il y avait une logique, au moins supprimant les fêtes, déjà, ce sera toujours ça de gagner. Bon, ça ne nous arrangeait pas, évidemment, mais je crois qu'il y avait cette raison qui peut s'expliquer.
Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi quelque chose d'attaché intrinsèquement à la nuit, c'est-à-dire son côté dangereux, son côté clandestin, son côté bandit?
Bien sûr que à partir du moment où on dit vous ne sortez plus la nuit, ceux qui transgressent, c'est qu'ils ont peut-être des mauvaises intentions. Donc là aussi, il y a une suspicion sur les gens qui traînent la nuit, comme on dit, on emploie le mot traîner. Bon, c'est alors c'est pas traîne pas sous la pluie comme dit Richard Bojinger, mais traîne pas à point d'heure, quoi. Et il y a toujours une obligation, si bien dans les familles, enfin ou dans les collectivités ou dans toutes les instances, de ne pas dépasser telle heure. Bon, la permission de minuit, par exemple, c'est quelque chose qui nous paraît un peu bizarre aujourd'hui.
Ah je l'ai connu quand j'étais jeune, moi, la permission de minuit. Et vous aussi, non? Je ne sais pas si vous la respectiez, mais...
Non, parce que moi, j'étais dans une famille, disons, j'étais très libre. Ma mère avait été vraiment, comme on disait à l'époque, vissée par son père, qui ne la laissait pas sortir et tout. Et elle s'était jurée que jamais elle n'infligerait un traitement pareil à ses enfants.
Donc vous avez la permission de toute la nuit?
J'ai pu, effectivement, aller au bal, dans les bals de village, dans les bals...
Vos parents ne vous attendaient pas en regardant leur montre?
Non, parce que comme j'habitais dans un endroit isolé, ma maman venait me chercher à 4h du matin. J'allais au bal avec des copines. Hein. Elle venait nous chercher à 4h du matin.
Alors et des copains
elle se levait. Là, on y allait entre filles. Mais on trouvait des garçons sur place pour, comme cavaliers, quand même. Bon, on ne sait pas entre filles. Mais on allait au bal et ma maman, elle venait nous chercher à 14h du matin alors qu'elle se levait
c'est
à 6
la maman de Jeannine.
Pour bosser. Et puis, voilà. Et puis, dès que ça a été possible, elle m'a offert une mobylette. À l'époque, on avait des mobylettes pour que disons, je sois indépendante et qu'elle ne soit pas obligée de faire.
Et elle vous laissait faire de la mobylette la nuit au retour des bals?
Oui. J'ai été très libre, très libre. Et ça, je pense que ça a forgé ma résistance, mon caractère et beaucoup de choses, peut-être, je ne sais pas.
Et votre désir de nuit
aussi,
absence de peur vis-à-vis de la nuit.
Voilà.
Parce que nous sommes nombreuses et nombreux à avoir quand même un peu peur de la nuit.
Écoutez, moi, j'en ai eu peur il y a très très longtemps, mais depuis quand même très 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 aussi longtemps, je n'ai plus peur de la nuit. Je trouve que c'est plutôt j'ai l'impression plutôt de trouver une alliée, de trouver un contexte dans lequel d'abord je trouve les choses sont plus belles Et puis, je me sens mieux que quoi que je fasse. Je veux dire, je vais pas danser tous les soirs, mais même si je regarde le ciel étoilé, je pense à cette belle phrase du poète Leopardi, qui titre un de ses magnifiques poèmes, Vague Estelle et Delorsa. Bon, c'est mal traduit en français. En fait, on devrait le traduire par Vagues étoiles de la Grande Ourse, mais le film qui a été tiré de cette histoire, qui porte ce titre en italien, a été traduit par Sandra, c'est-à-dire le nom de l'héroïne. Voilà. Et c'est dommage, parce que je trouve que Vague Estelle et Delorsa, c'est magnifique comme, disons, comme phrase à se dire en regardant les étoiles.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue. Jeannine Mossus-Lavaux, vous avez aussi choisi un extrait de La promesse de l'aube, de Romain Gary.
Un doute secret se glissa en moi. Je sentis qu'on me cachait quelque chose. Avec ma perspicacité précoce, il ne fallait pas beaucoup pour éveiller mes soupçons. Je me demandais donc si la vieille dame suédoise n'était pas tombée malade, si elle n'était pas en train de s'éteindre tout doucement dans sa chambre d'hôtel. Et si elle était la propre mère de mon amie, venue à Paris pour se faire soigner par les grands spécialistes français. Brigitte avait une très belle âme. Elle m'adorait, et elle était femme à me dissimuler son chagrin, pour épargner ma sensibilité d'artiste et éviter de me troubler dans mes élans littéraires. Une nuit, vers 1h du matin, imaginant ma pauvre Brigitte en train de pleurer au chevet d'une mourante, je n'y tins plus et me rendis devant l'hôtel des grands hommes. Il pleuvait. La porte de l'hôtel était fermée. Je me mis sous le porche de la faculté de droit et observai la façade de l'immeuble avec anxiété. Brusquement, une fenêtre s'éclaira au quatrième étage et Brigitte apparut au balcon, les cheveux défaits. Elle portait un peignoir d'homme et resta un moment immobile, le visage offert à la pluie. Je m'étonnais un peu. Je ne comprenais pas du tout ce qu'elle pouvait faire là, dans ce peignoir d'homme, les cheveux défaits. Peut-être avait-elle été prise sous l'averse et le mari de la dame suédoise avait dû lui prêter sa robe de chambre pendant que ses vêtements séchaient. Un jeune homme en pyjama apparut soudain au balcon et s'accouda à côté de Brigitte. Cette fois, je fus vraiment surpris. Je ne savais pas que la dame suédoise avait un fils. Ce fut alors que la terre s'ouvrit soudain sous mes pieds, que la faculté de droit s'abattit sur ma tête et que l'enfer et l'abomination se partagèrent mon cœur. Le jeune homme prit Brigitte par la taille, et mon dernier espoir, elle était peut-être tout simplement entrée chez un voisin pour remplir son stylo, s'évanouit d'un seul coup. Le gredin serra Brigitte contre lui et l'embrassa sur les lèvres. Là-dessus, il l'entraîna vers l'intérieur et la lumière se voila discrètement, mais ne s'éteignit pas tout à fait. Ce criminel tenait par-dessus le marché à voir ce qu'il faisait. Je poussai un hurlement affreux et me ruai vers l'entrée de l'hôtel pour empêcher le crime d'être consommé. Il y avait 4 étages à grimper, mais je pensais bien arriver à temps si le voyou n'était pas une brute finie et s'il avait dû savoir vivre. Malheureusement, la porte de l'hôtel était fermée et je dus cogner, sonner, hurler et me démener de 1000 façons, perdant ainsi un temps d'autant plus précieux que là-haut, mon rival ne devait pas avoir les mêmes difficultés. Pour comble de malchance, dans mon affolement, j'avais mal repéré la fenêtre et lorsque le concierge vint enfin m'ouvrir et que je volais comme un aigle d'étage en étage, je me trompais de porte et lorsque celle à laquelle je frappais s'ouvrit, je sautai à la gorge d'un petit jeune homme dont la frayeur fut telle qu'il faillit se trouver mal dans mes bras. Il me suffit d'un coup d'œil pour comprendre que ce n'était pas du tout le genre de jeune homme qui reçoit des femmes dans sa chambre. Bien au contraire, il roula vers moi des yeux suppliants, mais je ne pouvais rien pour lui, j'étais trop pressé. Je me retrouvais donc dans l'escalier obscur, perdant des instants précieux à chercher la minuterie. J'étais sûr à présent d'arriver trop tard. Mon assassin n'avait pas 4 étages à grimper, pas de porte à enfoncer. Il était à pied d'œuvre, et à l'heure qu'il était, il devait se frotter les mains. Brusquement, les forces me lâchèrent. Le découragement le plus complet s'empara de moi. Je m'assis dans l'escalier et essuyai la sueur et la pluie de mon front. J'entendis un flop-flop timide et le gracieux et faible vient s'asseoir à mes côtés et me prit la main. Je n'eus même pas la force de la lui retirer. Il se mit à me consoler. Autant que je me souvienne, il m'offrait son amitié. Il me tapotait la main et m'assurait qu'un homme comme moi n'aurait aucune peine à trouver une âme sœur digne de lui. Je le regardais avec un vague intérêt. Mais non, pour moi, il n'y a jamais rien eu à faire de ce côté-là. Les femmes étaient d'abominables garces, mais il n'y avait personne d'autre vers qui on pût se tourner. Elles avaient le monopole. Une immense pitié de moi-même m'envahit. Non seulement je venais de subir le plus cruel des affronts, mais il ne se trouvait dans le monde entier qu'une tantouse pour offrir me consoler et me tenir la main. Je lui jetai un regard noir et, quittant l'hôtel des grands hommes, rentrai chez moi. Je me mis au lit, décidé à m'engager dans la Légion étrangère dès le lendemain. Brigitte revint vers 2 heures du matin alors que je commençais déjà à m'inquiéter. Il lui était peut-être arrivé quelque chose. Elle gratta timidement à la porte et je lui dis hautement et clairement en un mot ce que je pensais d'elle. Pendant une demi-heure, elle chercha à m'apitoyer à travers la porte fermée, puis il eut un long silence. Pris de frousse à l'idée qu'elle allait peut-être retourner à l'hôtel des grands hommes, je bondis hors du lit et lui ouvris. Je lui donnai quelques gifles bien senties, senties par moi, je veux dire. J'ai toujours eu la plus grande difficulté à battre les femmes dans ma vie. Je dois manquer de virilité. Après quoi, je lui posai la question que je considère aujourd'hui encore, à la lumière d'une expérience de 25 ans, comme la plus idiote de ma carrière de champion. Pourquoi as-tu fait ça ? La réponse de Brigitte fut vraiment très belle, émouvante, je dirais même. Elle montre vraiment la force de ma personnalité. Elle leva vers moi ses yeux bleus pleins de larmes, et puis, secouant ses boucles blondes et avec un effort sincère et pathétique pour tout expliquer, elle me dit « Il te ressemblait tellement ».
En tout cas, je voudrais revenir à la nuit dangereuse, la nuit clandestine, la nuit qui a profité longtemps au 19e et puis dans le tout début du 20e siècle à celles qui n'avaient pas le droit d'exercer leur profession car elles n'étaient pas considérées comme des professionnels. Je veux parler des prostituées et je voudrais vous faire entendre Alain Corbin qui avait publié un très beau livre qui s'intitulait « Les filles de joie », qui va parler de la figure de la prostituée et des maisons closes. C'est une archive INA du 19 mars 1999. C'est Alain Corbin au micro d'Emmanuel Hirsch.
La figure de la prostituée a une fonction assez rassurante dans l'économie de la sexualité et de la morale du temps. Disons que les prostituées représentent l'animalité du peuple, à l'état pur, d'une certaine façon, que c'est plutôt ça, d'ailleurs, qui est tentant. Pour certains clients de la bourgeoisie, c'est la fugue sociale, à la rencontre de l'animalité supposée du peuple. Alors, la prostituée va concentrer sur elle tout le tragique de ce temps. On voit en elle une femme hystérique, on voit en elle une tuberculeuse, bien souvent, une alcoolique, et aussi un exemple de régression.
Les prostituées officielles n'aiment pas les filles libres, entre guillemets.
Disons les clandestines, parce que les filles libres sont elles aussi officielles. Mais les prostituées clandestines, évidemment, sont très mal vues des autres, puisqu'elles diminuent le nombre des clients. Ça, c'est évident, sans avoir toutes les astreintes, en particulier la visite médicale. Mais ces prostituées clandestines, dont le nombre a presque à coup sûr s'accroît à la fin du siècle à Paris, parce qu'il y a de nouvelles formes de noctambulisme, parce qu'il y a une circulation dans les boulevards, parce qu'il y a une possibilité des femmes de s'exhiber dans la lumière des terrasses, etc. Et puis parce que les hommes sont beaucoup plus attirés par le simulacre de séduction qu'ils peuvent exercer sur une fille qui se promène sur les boulevards, si vous voulez. Alors que, évidemment, recourir aux maisons, c'est avouer, en quelque sorte, son incapacité à séduire. Je crois que c'est une des grandes causes du déclin des maisons. Donc on constate dans la seconde moitié du siècle, effectivement, un développement du nombre de ce qu'on peut appeler les clandestines. Alors elles paraissent redoutables aux moralistes et aux administrateurs pour toutes sortes de raisons. D'abord parce qu'elles ne sont pas sous l'œil de la préfecture de police et par conséquent, elles peuvent disséminer la débauche dans l'ombre, loin de la lumière purifiante du pouvoir, si vous voulez, dans des lieux louches, des lieux de débauche que l'administration ne connaît pas. Elles peuvent, disent certains médecins, parce que là c'est très controversé, répandre la syphilis beaucoup plus largement. Et puis elles peuvent détruire les fortunes. Et une des choses qui hante le plus, surtout à partir des lendemains de la Commune, dans les années 70, c'est la circulation sociale du vice. C'est-à-dire l'idée que les positions sociales ne sont plus aussi stables qu'elles étaient, qu'il y a une mobilité sociale très grande et que le vice joue en quelque sorte dans ce processus de mobilité sociale. Et c'est tout le thème central du roman de Zola, Nana.
Nous venons d'entendre l'analyse d'Alain Corbin sur l'importance du jour et de la nuit, pas seulement pour la circulation du vice, entre guillemets, mais aussi pour finalement une espèce de phénoménologie des passions. Comme si le jour les instincts étaient maîtrisés et comme si la nuit, effectivement, ils pouvaient se réveiller. Et dans les maisons closes, on y allait le soir, une fois la nuit tombée, et quelquefois, et d'ailleurs, évidemment, Zola le raconte très bien, mais pas seulement Zola, Flaubert, et bien d'autres. Dans les petits villages, souvent, il y avait une maison close, mais c'était la seule lumière allumée dans le village, la nuit, tard. Et quant aux filles qui faisaient profession de prostitution et qui déambulaient dans les grands centres urbains, eh bien, elles ont pu le faire parce que, justement, il y a eu des éclairages public après Haussmann, et donc elles pouvaient montrer leurs appâts. Donc il y a une distribution comme ça, du bien et du mal presque. La nuit, c'est la tentation du mal. Vous êtes d'accord avec ça, Jeannine ?
Disons que la nuit, dans la mesure justement où elle permet de cacher, de dissimuler, disons de pas se montrer comme, disons, en plein soleil, elle aménage aussi, disons, d'autres espaces de liberté. Mais on le voit très bien simplement, parce que j'ai des textes dans le livre qui le montrent très très bien, la différence entre faire l'amour le jour et faire l'amour la nuit.
Ah, quelle
parce
différence
que, bon, vous avez d'abord beaucoup de gens pour qui ont des idées très arrêtées. Le jour, et même avec la fée électricité, c'est pas possible. Je préfère le noir, la pénombre, etc. Voilà. Et
donc pourquoi la nuit va avec
et
l'amour.
La nuit, et donc beaucoup de gens préfèrent effectivement l'amour la nuit, parce que à partir du moment où on est dans l'ombre, ou la pénombre, les gestes peuvent être beaucoup plus libres.
C'est parce qu'on voit moins aussi.
On voit moins faire un certain nombre de choses. Et je veux dire que je pense que les personnes s'autorisent sans doute plus, disons, de liberté et de gestes qui ne feraient pas forcément en plein jour, la nuit. Parce que ça donne une liberté des corps qui, en tout cas, bon, il y a pas mal, il y a des textes sur le sujet qui est comme ça. Mais je pense aussi que vous disiez sur la prostitution, c'est vrai que les maisons closes ont en principe disparu. On se dit, un certain nombre d'écrivains qui n'auraient jamais pu écrire les belles pages qu'ils écrivaient, si effectivement ils n'étaient pas allés, comme ils allaient régulièrement, au bordel, où il y avait les costumes, les décorations, la mise en scène, et tout ce qu'il y avait autour de la prostitution dans ces moments-là, bien sûr. Donc, pour la littérature, pour la morale, on discute, pour la littérature, c'est vrai que c'est plutôt un plus.
La nuit, c'est aussi la nuit du romantisme. Oui, d'ailleurs, dans votre recherche Éperdue de nuit, on voit bien qu'il y a une sanctuarisation, un côté magique et une sorte d'invocation païenne à la nuit, comme si la nuit était la source d'inspiration et peut-être la possibilité de transgresser ses propres limites pour nous dépasser nous-mêmes. Pourquoi ?
Oui, parce que, justement, on est en partie voilé, caché, et que ça permet justement ces gestes qu'on n'a pas. Et puis ça permet aussi d'être la nuit, je dirais, dans la durée. Et c'est ça, je trouve, qui est important. Parce que, bien sûr, on peut faire l'amour le jour, mais si vous voyez, par exemple, les jeunes, qui n'ont pas forcément la possibilité d'emmener chez eux leur petite amie ou leur petite amie pour dormir avec eux, ou qui n'ont pas forcément envie de dormir avec quelqu'un dans la chambre proche de celle de leurs parents. Bon, c'est le jour. Si vous prenez les amours illicites, 5 à 7, ou entre midi et 2, entre ce que vous voulez, mais ce sont des moments assez brefs dans la journée. Et au fond, toutes ces personnes, on en a 40 000 témoignages, qui ont de l'amour, effectivement.
Là, c'est la sociologue de l'amour qui vous parle de la nuit d'amour.
Absolument, qui ont cette pratique diurne. Ils n'ont qu'une envie, c'est passer une nuit ensemble. Et ils se souviennent évidemment toujours de la première nuit, ou plusieurs premières nuits, parce que des premières nuits, il peut y en avoir autant qu'il y a de partenaires. Mais enfin, en tout cas, disons que la nuit, l'aspiration à passer la nuit ensemble, c'est quand même quelque chose qui est possible, quand c'est possible, qui permet d'accéder à la durée. C'est-à-dire pas seulement, disons, faire l'amour vite fait, parce que, bah oui, il faut rentrer, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, mais d'être dans le temps qui permet d'exprimer tous les gestes, toutes les envies. Donc, il y a de très beaux textes, notamment le texte de Robert Brasillach qui s'appelle « La nuit de Tolède », qui, dans au moins 40 ou 50 pages, vous décrit une nuit avec chaque geste, avec tout, d'une beauté extraordinaire. Il y a le texte aussi de Beaussan qui s'appelle Héloïse, qui raconte ses nuits très, disons, clairsemées, puisque entre, disons, il y a trois moments dans la vie d'Héloïse où elle peut être avec son amoureux, et entre chaque fois il s'écoule 4 ans. Donc voilà, c'était la nuit seule qui permettait de connaître ce genre de choses. Donc, je pense que le désir et le plaisir sont multipliés par la pénombre, par l'obscurité et par tout ce qui peut se détendre à ce moment-là et qui n'est plus soumis à un emploi du temps, à de la lumière, à des contrôles, à des présences, à tout ce qu'on veut.
Vous écoutez France Inter, ouais. Vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le premier numéro d'une série consacrée au désir de nuit, et vous écoutez le choix musical de Jeannine Mossus-Lavaux, One Night, Elvis Presley.
One night with you is what I'm now praying for. The things that we two could plan make my dreams come true. Just call my name and I'll be right by your side. I want your sweet helping hand. My love's too strong.
Nous venons d'entendre Elvis Presley, Jeannine Mossus-Lavaux, dans ce désir de nuit. La nuit a inspiré beaucoup les cinéastes. Vous parliez en début d'émission de Hitchcock, mais la nuit a été une source d'inspiration pour beaucoup de cinéastes. Par exemple, Antonioni, car il a su sublimer le noir et blanc et faire de son noir le noir le plus noir de nos nuits les plus inspirantes. Ouais. Pourquoi et comment cette nuit a traversé le cinéma pour vous ?
Alors la nuit a traversé le cinéma parce qu'elle permet justement de montrer aussi bien des transgressions, des pas de côté, disons des scènes, des moments, des relations entre les gens, qu'on verrait peut-être pas trop le jour. Par exemple, est-ce que ascenseur pour l'échafaud. Est-ce que vous pouvez imaginer Jeanne Moreau marchant la nuit avec cette musique sublime de Miles Davis? Est-ce que vous pouvez imaginer ça en plein soleil?
Bah non. C'est le nom d'un film de René Clément, mais effectivement, c'est pas pareil.
Le plein soleil, c'était autre chose. C'était autre chose en mer, etc. Mais, en tout cas, cette scène-là, vous pouvez pas l'imaginer en plein soleil. Est-ce que vous pouvez imaginer les errances de Patrick Modiano, qui la nuit va d'une station de métro à une autre station de métro à tel endroit? Mais est-ce que vous pouvez imaginer Patrick Modiano errant comme ça, au bord de la Seine ou ailleurs, entre midi et deux heures, en plein soleil aussi?
Non, on imagine la lumière de Modiano.
C'est pas possible.
C'est la fin du jour, ou le cœur de la nuit.
Et moi, il y a une scène que j'ai aussi toujours devant les yeux. C'est un de mes films préférés, c'est Pandora, le film d'Albert Lewin, où la nuit, vous avez James Mason qui est en fait le Hollandais volant, qui est sur son bateau et arrive à la nage et émerge de l'eau et s'accroche au bateau nu à Ava Gardner. En pleine nuit. Bon, non, c'est pas une scène de plage. C'est vraiment une scène de nuit absolument magnifique. Donc, la nuit, ça donne des moments de beauté absolument extraordinaires. Si vous voyez les nuits de la pleine lune et le petit visage, disons, tristounet de l'héroïne, bon, c'est aussi quelque chose qui ne s'accorderait pas avec une lumière blanche, brutale, etc. Donc c'est plus beau la nuit. Bon, il y a une phrase que je voudrais ajouter, parce que et la phrase par laquelle je commence le premier texte d'introduction à ce livre, c'est que j'ai trouvé dans Charles Péguy. Moi, j'étais pas une lectrice folle d'amour pour Charles Péguy, mais j'ai découvert un poème magnifique, un hymne à la nuit, et Charles Péguy fait dire à Dieu, il donne la parole à Dieu, et Dieu dit la nuit, ma plus belle invention. Et c'est vrai, c'est une belle invention la nuit.
Merci infiniment, Jeannine Mossius-Lavaux. Je rappelle que Désir de nuit, de Virgile à Jean Genet, c'est un ouvrage que vous avez conçu, composé, préfacé et qui vient de sortir aux éditions Bouquin chez Robert Laffont. Vous, la folle de nuit.
Je résolus d'aller passer la nuit chez mon ami Upokoyev qui, par la suite, comme vous le savez, s'est tué d'un coup de revolver. Il habitait l'hôtel meublé de Tcherepov dans la rue Morte. Panikidine essuya la sueur froide qui mouillait sa face livide et, ayant péniblement soupiré, poursuivit. Je ne trouvais pas mon ami chez lui. Après avoir frappé et m'être assuré qu'il n'y était pas, je pris en tâtonnant la clé sur l'imposte. J'ouvris et entrai. Je laissai tomber ma pelisse mouillée et, ayant trouvé à tâtons le canapé, je m'y assis pour me reposer. Il faisait noir. Le vent bourdonnait tristement dans le ventilateur. Un grillon, dans un trou du poêle, chantait sa monotone chanson. Au Kremlin, on sonna les matines de Noël. Je me hâtais de faire partir une allumette. Mais la lumière ne me délivra pas de mon humeur sombre. Au contraire. De rechef, un effroi horrible, inexprimable, s'empara de moi. Et poussant un cri, trébuchant, affolé, je m'enfuis de l'hôtel. J'avais vu, dans la chambre de mon camarade, la même chose que chez moi. Un cercueil. Le cercueil était deux fois plus grand que celui de ma chambre et sa garniture marron le rendait particulièrement lugubre. Comment était-il arrivé là? Que ce fût la berlue, il était impossible maintenant d'en douter. Il ne pouvait pas y avoir un cercueil dans chaque chambre. C'était évidemment un malaise de mes nerfs, une hallucination. Où que je fusse allé, à présent, j'aurais toujours vu devant moi l'affreuse demeure de la mort. C'est donc que je devenais fou, que je souffrais d'une sorte de cercueillomanie, et il n'y avait pas à en chercher bien loin la cause. Il n'y avait qu'à se rappeler la séance de spiritisme et le mot de Spinoza. « Je deviens fou », songeais-je avec terreur, en me prenant la tête. « Mon Dieu, que faire ?» Ma tête éclatait, mes jambes flageolaient. La pluie tombait comme d'un seau, le vent me pénétrait, et je n'avais ni pelisse ni bonnet. Revenir les chercher était impossible, dépasser mes forces. La peur, en sa froide étreinte, me serrait fortement. Mes cheveux se dressaient, une sueur glacée ruisselait de mon visage, bien que je ne crusse qu'à une hallucination. Qu'avait-il à faire ? Reprit Panikidine. Je devenais fou et risquais de prendre atrocement froid. Je me souvins par bonheur que non loin de la rue Morte habitait un de mes bons amis, le docteur Pogostov. Il venait de terminer sa médecine et avait assisté avec moi à la séance de spiritisme. Je me hâtais de me rendre chez lui. Il n'était pas encore le mari d'une riche marchande et habitait au 5e étage de la maison du conseiller d'État Kladbitschensky. Chez Pogostov, mes nerfs durent endurer une torture nouvelle. En montant au 5e, j'entendis un affreux vacarme. Quelqu'un courait en haut, avec un grand bruit de pieds, claquant les portes. J'entendis un cri déchirant. « À moi ! À moi, concierge !» Et une seconde après, une forme noire, en pelisse, coiffée d'un chapeau haute forme, se précipita à ma rencontre. « Pogostov ! » m'écriai-je en reconnaissant mon ami. « C'est vous ? Qu'avez-vous ? » Pogostov, m'ayant rejoint, s'arrêta et me prit convulsivement le bras. Il était pâle, il respirait avec peine, il tremblait. Ses yeux couraient, hagards, sa poitrine se soulevait. « C'est vous, Panikidine ? » demanda-t-il d'une voix sourde. « Mais est-ce bien vous ? Vous êtes pâle, littéralement comme quelqu'un qui sortirait du tombeau. En vérité, n'êtes-vous pas une hallucination ? Mon Dieu, vous êtes à faire peur. Et vous ? Qu'avez-vous ? Vous n'avez pas figure humaine. Oh, mon ami, laissez-moi respirer. » Je suis heureux de vous voir si c'est réellement vous que je vois. Et si vous n'êtes pas une illusion de mes sens. Maudite séance de spiritisme. Elle m'a tellement démoli les nerfs que, figurez-vous, revenu chez moi, j'ai vu dans ma chambre un cercueil. N'en croyant pas mes oreilles, je lui demandai de répéter. Un cercueil, dit le docteur en s'asseyant, épuisé sur les marches. Un vrai cercueil. Je ne suis pas un poltron, mais le diable lui-même s'effraierait si, après une séance de spiritisme, il tombait sur un cercueil. M'embrouillant, bégayant, je racontai au docteur les cercueils que j'avais vus. Nous nous regardâmes, une minute l'un l'autre, les yeux hagards, bouche bée. Et pour nous convaincre que nous n'étions pas hallucinés, nous nous mîmes à nous pincer l'un l'autre. Nous sentons tous les deux de la douleur, dit le docteur donc. Nous ne dormons pas et ce n'est pas en rêve que nous nous voyons. C'est donc que les cercueils, le mien et les deux vôtres, ne sont pas des erreurs de nos sens, mais quelque chose de réel. Qu'y a-t-il donc à faire maintenant, l'ami ? Demeurait une grande heure sur l'escalier glacé, et nous perdant en conjectures et suppositions. Nous avions très froid et décidâmes de rejeter la peur pusillanime, de réveiller le garçon et de nous rendre avec lui à la chambre du docteur. C'est ce que nous fîmes. Entrés dans la chambre, nous vîmes en effet un cercueil, garni de lamé blanc avec des crépines et des glands d'or. Le garçon se signa pieusement. « On peut maintenant savoir, dit le docteur pâle et tremblant, si ce cercueil est vide ou s'il est habité. » Après une longue et compréhensible hésitation, Pogostov se baissa et, serrant les dents d'effroi et d'émotion, il arracha le couvercle du cercueil. Nous regardâmes et le cercueil était vide. À défaut de cadavre, nous y trouvâmes une lettre ainsi conçue. « Cher Pogostov, tu sais que les affaires de mon beau-père sont dans un horrible état. Il est endetté jusqu'au cou. Demain ou après-demain, on viendra le saisir. » Et sa famille et la mienne seront définitivement perdues, ainsi que notre réputation qui est, pour moi, la chose la plus précieuse. Nous avons décidé hier, au conseil de famille, de mettre en lieu sûr tout ce qui a du prix. Comme tout l'avoir de mon beau-père consiste en cercueils, il est, comme tu sais, le meilleur fabricant de la ville en ce genre, nous avons résolu de dissimuler les plus beaux cercueils. Je m'adresse à toi comme à un ami. Aide-moi à sauver notre avoir et notre réputation. Dans cet espoir, je t'envoie un cercueil que je te prie de garder chez toi jusqu'à nouvel ordre. Sans l'aide de nos connaissances, nous sommes perdus. J'espère que tu me refuseras d'autant moins cela que le cercueil ne restera pas chez toi plus d'une semaine. À tous ceux que je regarde comme de vrais amis, j'en ai envoyé un, et je compte sur leur générosité et sur leur noblesse. Celui qui t'aime. Ivan Tchelyoutsin.
Et on se quitte pour ce premier épisode « Désir de nuit ». Avec votre dernier choix, Janine Mossus-Lavo, c'est Anton Tchekhov, un extrait de « Une nuit atroce » lu par Julien Gosselin. Colors fool my brain as daylight fills my window. What a fool I was to sit and watch you go. Kiwanuka, que nous allons nous quitter ce soir pour cette série sur la nuit numéro 1. Merci à Julien Gosselin pour ses lectures. Merci à vous, Jeannine Mossus-Lavaux. Je rappelle que votre anthologie s'intitule « Désir de nuit » et qu'elle vient de paraître aux éditions Bouquin. J'espère que nous nous retrouverons demain pour le deuxième épisode de notre série « Désir de nuit ». Ce sera avec le philosophe Michael Fossel, qui a écrit un livre magnifique intitulé tout simplement « La nuit », sous-titre « Vivre sans témoin ». Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer et Iris Vertanessian. Et bien sûr à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec Mishka pour son « Very Good Trip ».